Europe 1, il est 7h.
Pas réduit de 30%, pas divisé par 2, pas divisé par 4. Arrêtez. Ça mérite au moins une enquête.
Silencieux depuis plus d'un an, il frappe fort. Aujourd'hui, Jean-Louis Borloo dénonce l'arrêt des programmes de rénovation urbaine.
Mais les autorités l'assurent, les difficultés n'ont été que temporaires. Des Français convertis à l'entrepreneuriat. Les créations d'entreprises n'ont jamais été aussi nombreuses que l'an dernier.
Et dans le même temps, d'autres professions en souffrance, les candidats pour devenir prof sont de moins en moins nombreux. Et en bout de chaîne, c'est la qualité de l'enseignement qui est en jeu.
Lorsque le nombre de candidats diminue, eh bien la qualité diminue aussi, puisque la sélection entre eux est moindre.
Dans ce journal aussi, après le cinéma, l'heure du MeToo en politique, jusque dans les conseils municipaux.
Sur les agressions sexistes et sexuelles dans les partis, on retrouve un clivage gauche-droite avec des partis de droite où il ne s'est rien passé.
Enquête Europe 1 à suivre.
Et puis des ingénieurs français qui suivent au plus près les incendies en Australie, eux, sont à Strasbourg.
Il est 7h01, bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Mathieu Béliard, Marion Calais.
Est-ce l'amertume d'un homme dont le plan pour les banlieues a été jeté aux oubliettes ou l'alerte d'un ancien responsable politique en pointe sur les questions de rénovation urbaine ? Jean-Louis Borloo, en tout cas, monte au front.
Invité hier par la commission économique du Sénat, l'ancien ministre de la Ville a demandé une enquête parlementaire. Selon lui, on ne fait plus rien pour la rénovation des quartiers. Pour Europe 1, Mathieu Bock.
C'est droit dans les yeux que Jean-Louis Borloo le dit au sénateur. Aujourd'hui en France, le projet de rénovation urbaine est au point mort.
Pas réduit de 30%, pas divisé par 2, pas divisé par 4. Arrêtez. Ça mérite au moins une enquête.
Francis Dubrac, patron d'une entreprise de BTP de 400 salariés, l'a bien vu en Seine-Saint-Denis. Les chantiers sont stoppés depuis plus de 2 ans.
On l'a ressenti directement dans nos chiffres d'affaires de 2017, de l'ordre de 30% du chiffre d'affaires. Pour le 4000 logements de la Courneuve, ça demande de refaire des voies de pénétration, des réseaux d'assainissement. Tous ces chantiers-là n'existent plus aujourd'hui.
Pour Bruno Ferracci, le président de la Société française des urbanistes, ce coup de frein est sans doute dû à un désintérêt au plus haut sommet de l'État.
Problème que Macron méconnaît, il n'en a pas la mesure exacte.
Le président de l'Agence nationale de rénovation urbaine, Olivier Klein, reconnaît des erreurs désormais corrigées.
Il avait raison de dire que ça prenait trop de temps. C'est vrai qu'il y a eu une difficulté sur l'enchaînement du premier programme de renouvellement urbain et le deuxième programme. Ça, c'était la situation quand Jean-Louis Borloo a remis son rapport. Et aujourd'hui, le renouvellement urbain n'est pas du tout à l'arrêt. On a validé plus de 370 projets, plus de 9 milliards d'euros. C'est 80% des 12 milliards possible. J'ai eu Jean-Louis Borloo au téléphone, il partage cette analyse.
Et pour sa défense, le ministère de la Ville rappelle que depuis plus d'un an, ce sont 150 opérations immobilières qui ont été livrées sur l'ensemble du territoire.
Mathieu Bock est le ministère qui promet d'amplifier ses opérations dans les prochains mois.
Il risque plus que jamais de faire office de matelas, de réserve dans laquelle on pioche en cas de coup dur. Dès le mois prochain, le taux de rémunération du livret A va baisser.
Il va atteindre un plus bas historique à 0,5%, Emmanuel Dutheil.
Le livret A, c'est un de nos placements préférés. Il y en a 55 millions en France et en moyenne, on a sur notre livret A un peu moins de 4 700 euros. Le gros intérêt, c'est qu'il est possible de récupérer son argent comme on le veut, que ce compte est quand même un petit peu rémunéré et que les intérêts sont totalement exonérés d'impôts. Depuis 2015, la rémunération était de 0,75%. Ce n'était déjà pas beaucoup, mais là, elle passe donc à 0,50%. Ça, c'est historique et on n'a jamais vu un tel plancher. Les intérêts déjà réduits à peau de chagrin vont donc encore fondre. Pour ceux qui ont par exemple 10 000 euros sur leur livret A, eh bien c'est 25 euros d'intérêt en moins par an. Mais à Bercy, on assume cette décision qui n'est pas populaire en pleine crise des retraites. On peut même parler d'une attaque contre le pouvoir d'achat. Mais le ministère de l'économie avance notamment un argument. Le livret A finance la construction de logements sociaux et le garder à des taux qui ne reflètent pas la réalité économique, eh bien ça renchérit tout simplement le coût de construction de ces logements.
Emmanuel Dutheil.
Il va le confirmer ce matin sur Europe 1. L'expliquer surtout Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances et l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15.
C'est un rêve d'indépendance et d'autonomie pour de nombreux Français. Devenir son propre patron, lancer sa boîte. Eh bien l'an dernier, ils ont été plus nombreux que jamais à sauter le pas.
Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour Mathieu.
Votre éclairage éco ce matin sur ce record de création d'entreprises. On en a compté 120 000 de plus qu'en 2018.
Oui, d'année en année, le nombre de créations d'entreprises augmente de manière assez fulgurante. 600 000 en 2017, 700 000 en 2018, plus de 800 000 l'an dernier. Alors, point positif, tous les types d'entreprises sont concernés, depuis la micro-entreprise jusqu'aux sociétés classiques. Et en fait, toutes les mesures prises ces derniers temps pour favoriser la création, simplifier les démarches administratives, relever aussi les seuils maximum de chiffre d'affaires pour rester une micro-entreprise, et bien, tout ce qui a été fait avec la loi Pacte, et bien, tout ceci paye. Les Français n'hésitent pas à entreprendre dès lors qu'on ne met pas de bâton dans les roues, même s'il reste encore beaucoup de freins.
Mais ces bons chiffres, Nicolas, cachent aussi les effets de l'ubérisation de l'économie.
Alors oui, évidemment, tout n'est pas rose. On a par exemple enregistré l'an dernier 100 000 créations de micro-entreprises dans le secteur de la distribution de repas. Ces micro-entreprises, en fait, ce sont des livreurs de Deliveroo ou de Uber Eats qui mettent un pied sur le marché du travail autrement qu'en devenant salariés. Ce sont aussi des chauffeurs de VTC, par exemple. Mais il n'y a pas que ça. Les créations de sociétés classiques sont également en nette hausse, plus de 9%. Et comme le montre un sondage Opinionway pour le prochain salon des entrepreneurs, près de la moitié des 18-34 ans veulent créer leur entreprise plutôt que de devenir salarié. Le monde change.
L'éclairage de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos. Merci. Alors, reste à dire que l'indépendance prend le pas sur la sécurité de l'emploi dans le choix d'une carrière. Peut-on y voir un début d'explication aussi quant à la désaffection que vivent en ce moment certaines professions, au premier rang desquelles d'ailleurs l'enseignement?
Le métier de prof n'attire plus. C'est aussi une question de salaire. L'an dernier, le nombre d'inscrits aux épreuves de l'agrégation et du CAPES a baissé de près de 10%. Et à la fin, ce sont les élèves et la qualité de l'enseignement qui risquent d'en pâtir, Pierre Herbulot.
Allemand, lettres classiques ou encore lettres modernes, dans ces trois matières, la moitié des inscrits au concours sont devenus profs l'an dernier. Une réussite exceptionnelle, directement liée au faible nombre de candidats. C'est tout, sauf une bonne nouvelle pour Patrick Rayou, professeur en sciences de l'éducation.
Lorsque le nombre de candidats diminue, eh bien la qualité diminue aussi, puisque la sélection entre eux est moindre. On sait aussi que s'ils ne sont pas candidats et s'il y a moins de titulaires, on va les remplacer par des contractuels qui ont un bagage plus faible, qui n'auront pas nécessairement non plus de formation. Donc plus on va multiplier ces interventions épisodiques et précaires, plus on peut penser que ça va continuer à dégrader les apprentissages des élèves, puisqu'au bout du compte, c'est quand même ça qui est important.
Des matières jusque-là épargnées, comme la SVT, Sciences de la vie et de la terre, ou la SES, Sciences économiques et sociales, voient aussi leur nombre d'inscrits au concours chuter. L'éducation nationale est parfois obligée de choisir entre un étudiant avec 6 de moyenne et un intérimaire qui a raté le précédent concours, tacle un syndicaliste.
Des précisions signées Pierre Herbulot pour Europe 1.
La réponse de l'intersyndicale à Édouard Philippe. Hier après-midi, le Premier ministre estimait que la grève avait trop duré. Hier soir, les syndicats ont annoncé la prolongation du mouvement avec une nouvelle journée d'action vendredi prochain, date de l'examen de la réforme des retraites en Conseil des ministres.
Les règles de rigueur qui s'imposent ont été parfaitement respectées. C'est la défense de Ségolène Royal après l'ouverture d'une enquête du parquet financier, des investigations lancées il y a 2 mois. Sur quoi porte-t-elle? Élément de réponse avec Marion Dubreuil pour Europe 1.
L'enquête a été confiée à la brigade de répression de la délinquance économique, le service qui avait déjà travaillé sur les impôts de Thomas Thévenoud et les notes de taxi de la présidente de l'INA. L'objectif cette fois-ci, déterminer si Ségolène Royal a utilisé à des fins personnelles les 3 collaborateurs mis à sa disposition en tant qu'ambassadrice. Des vidéos les montra à Montpellier, Poitiers, Brest, lors de séances dédicaces de son dernier livre ou à des inaugurations en Poitou-Charentes, sans compter ce voyage au Sénégal d'un conseiller pour des projets au profit de sa fondation Désir d'avenir pour la planète. Pour sa défense, Ségolène Royal a expliqué que ses collaborateurs l'accompagnaient sur leur temps libre. Hier, sur Facebook, elle a même assuré que son éditeur avait pris en charge la totalité des frais de promotion de son livre. Mais elle devra bientôt s'expliquer devant les policiers, notamment pour justifier ses dépenses, comme les 1500 euros de frais de voiture avec chauffeur pour le seul mois de novembre 2017.
Marion Dubreuil. La garde à vue du réalisateur Christophe Ruggia levée ce matin, mise en cause pour attouchement et harcèlement sexuel par l'actrice Adèle Haenel, à laquelle il a d'ailleurs été confronté. Hier, il va être déféré au parquet. Une information judiciaire sera ouverte dans la matinée.
Europe 1.
Et il n'y a pas que le cinéma qui fait son autocritique en matière de sexisme et de harcèlement. Le sujet s'invite aussi au cœur des élections municipales. Enquête Europe 1 à suivre.
Europe 1, il est 7h11, le journal se poursuit avec Mathieu Belliard et Marion Calais.
Ce sera le 15 mars prochain, le premier tour des élections municipales. Et dans la perspective du scrutin, des élus et des militants de gauche ont appelé un MeToo des territoires.
Vous allez nous expliquer, Jeanne Bergaoui, bonjour.
Bonjour.
C'est l'enquête Europe 1 du journal de 7h. L'idée, c'est d'empêcher les candidatures de ceux qui auraient été épinglés ou soupçonnés de harcèlement ou d'agression sexuelle, c'est ça ?
Absolument. Ces élus, en fait, ils appellent à faire le ménage pour ces investitures, à faire arriver le hashtag MeToo jusque dans les mairies les plus reculées de France. Alors, il y a déjà des premiers résultats. À Firminy, près de Saint-Etienne, les communistes ont lâché leur candidat officiel condamné pour agression sexuelle. Au Parti Socialiste, on est sur la même ligne. Il ne faut rien laisser passer, explique le patron du PS, Olivier Faure.
On n'a pas les moyens d'enquêter sur les uns et sur les autres. Mais à chaque fois que sont portés à notre connaissance des faits, nous regardons comment on réagit par rapport à ces éléments-là. Quitte à y perdre des bastions dans lesquels nous sommes là depuis longtemps.
Risquer de perdre un bastion comme Saint-Nazaire où le PS a gelé l'investiture du maire sortant, David Samsin. Il avait écarté des conseillères municipales qui avaient dénoncé les agissements d'un autre élu.
Donc la gauche essaie d'être exemplaire. À droite, ça se passe comment ?
Bah écoutez, c'est un peu plus compliqué. Chez les Républicains, on assure qu'au moindre problème, ça sera l'exclusion. Pour l'instant, aucun cas n'a encore été signalé. Pour les centristes de l'UDI, on estime qu'il ne faut pas se substituer à la justice. Le parti centriste n'a pas eu besoin, par exemple, à Laval, d'intervenir pour que le maire François Zocchetto, soupçonné de harcèlement, annonce qu'il ne rempilerait pas. Un sujet donc assez délicat, comme le dit Hélène Bidard. Elle préside l'association Élus contre les violences faites aux femmes.
Sur les agressions sexistes et sexuelles dans les partis, on retrouve un clivage gauche-droite, avec des partis de droite où il ne s'est rien passé. Pas une expression politique de la part des premiers dirigeants, rien. Et c'est assez inquiétant parce que ça veut dire qu'il y a des personnes qui doivent souffrir de ce manque de parole.
Le plus dur finalement pour trancher, c'est quand il n'y a pas de plainte.
Oui, alors où placer le curseur ? Des blagues lourdes, est-ce que ça mérite une exclusion ? Ou bien c'est uniquement pour des gestes ou des comportements inappropriés ? Ça, c'est évidemment difficile d'y répondre. Chez les LR, par exemple, on est bien embarrassé avec le cas de Georges Tron, l'ancien secrétaire d'État accusé de viol, qui, vous vous en souvenez, a été acquitté. Le parquet a fait appel et en attendant son nouveau procès, Georges Tron, qui est présumé innocent, veut se représenter pour un cinquième mandat à Draveil dans l'Essonne. Enfin, au Rassemblement national, pour l'instant, c'est le silence. On a passé des coups de fil, mais aucune réponse.
Le MeToo des territoires et des partis aussi, donc, hein, avec Jeanne Bergaoui pour Europe 1. C'était l'enquête de ce journal ce matin.
C'est un coup de pouce précieux sur le front des incendies en Australie. Il a plu aujourd'hui dans le sud-est du pays où sont situés les feux les plus importants.
Cette pluie n'éteindra pas tous les feux, mais elle va aider à les contenir, selon un responsable de la lutte contre les incendies. On en compte encore plusieurs dizaines des incendies, qu'aident aussi à combattre des ingénieurs à Strasbourg via le service de traitement d'images et de télédétection au sein duquel Arthur Mbaché a pu se rendre pour Europe 1.
Ouais, elle remonte maintenant.
Deux ingénieurs, les yeux rivés sur la toute dernière image qui vient d'arriver d'un satellite.
Sur l'image de 10.
Ouais, faut encore remonter.
Plan large, toute l'Australie en feu. Plan serré, ville moyenne, côte est, image haute définition.
Une bonne partie là sur tout ce quartier résidentiel ici. On voit que la ville est presque entourée de ces feux.
Jérôme Maxon et Stéphanie Battiston, ingénieurs au laboratoire iCube.
Donc on travaille la nuit, les week-ends, pour fournir les premières informations de crise. Ensuite, sur le terrain, les secours peuvent vraiment utiliser les cartes pour s'orienter et vraiment aller sur les zones les plus sinistrées.
On livre aussi les résultats en format Google. Donc, ils peuvent insérer les couches d'informations sur leurs iPads, sur le terrain directement.
2019-2020, on est sur des feux assez exceptionnels que, moi, ça fait 10 ans que je travaille ici. Je n'avais pas vu de cette dimension.
Après une première série de cartes fournies aux Australiens en novembre, les ingénieurs strasbourgeois sont prêts à intervenir dans le cadre de l'aide logistique et scientifique offerte par la France. Strasbourg, Arthur Mbaché, Europe 1.
Et cette fois, ils n'ont pas tremblé, hein, les joueurs du PSG contre Monaco après le nul 3 partout de dimanche. Victoire 4-1 hier soir.
Marion Calais pour le journal de 7h. Merci beaucoup. À 7h30, on retrouve Hélène Zélani tout à l'heure. Il est 7h15.